Focus. Une immersion dans l'univers de la création.
Bonjour à tous, nous rencontrons aujourd'hui le champion de parapente Damien Lacaze. Bonjour Damien.
Bonjour.
On parle de champion parce que tu viens de faire une course extraordinaire qui s'appelle l'Aix-Alpes, qui est une course de marche et vol la plus difficile.
La plus longue, ouais, surtout. Et du coup, difficile parce que ça peut durer jusqu'à 12 jours et c'est ce qui se fait de plus long dans cette discipline.
Donc le but du jeu, c'était d'aller jusqu'au Mont Blanc, de passer par des balises et de revenir en allant le plus vite.
Ouais, alors le parcours, en gros, on part d'Autriche, fait le tour du Mont Blanc et on revient en Autriche. Ça fait 1200 km. On avait 12 jours pour boucler, forcément, les premiers arrivent avant. Cette année, on a eu des conditions exceptionnelles, on a bouclé en 7 jours.
Tu as fait l'exploit parce que tu as terminé deuxième.
Ouais.
J'ai compris que tu avais fait 3 X-Alpes. La première en tant qu'assistant, la deuxième où tu avais fait un score dans les dixièmes. Mmh. Et c'est la troisième où tu as réussi à faire le podium.
C'est ça, la première en 2017 avec Benoît Wouters comme assistant, donc j'étais pas coureur. Et ensuite j'y suis allé pour moi en 2021, donc j'ai fait 11e après une pénalité d'une journée. Et l'année dernière, donc 2023, où tout s'est bien, super bien passé pour moi avec des conditions de vol extraordinaires. Et voilà, j'ai réussi à performer là-dedans, c'était chouette.
Alors là, on est devant le centre où tu vas projeter le film. Donc tu as fait un film sur cette aventure-là. Comment est-ce que ça se passe? Tu peux faire la course tout en faisant le film? Ça complique pas un peu la sauce?
Non, en fait, pour les courses de marche et vol, sur ce genre de course, c'est obligatoire d'avoir des assistants, donc une équipe avec nous, qui nous donc suivent.
Quatre personnes, je crois.
Il y a une personne officielle, mais après, chaque athlète prend le nombre d'assistants qu'il veut suivant son budget et les besoins qu'il a. Nous, on était 4 plus moi 5. Et dans ces 4-là, il y avait quelqu'un qui était chargé de la communication. Donc, il faisait des posts réguliers pour donner des nouvelles pendant la course. Il faisait des photos, il faisait des clips vidéo. Et du coup, il a filmé tout le long de la course et il a récupéré mes rushs de caméra embarquée. Et après, on en a fait un film après. Donc, on a travaillé tous les deux là-dessus pour faire quelque chose qui soit le plus parlant à un maximum de gens, même non techniques et non parapentistes. Et voilà, on est assez content du résultat. Le film est sorti il y a un mois et je fais un peu le tour des clubs de parapente et de salles pour le présenter.
Et je suppose qu'il y a des moments qui sont difficiles pendant une course comme ça. Je me rappelle, moi j'avais vu le film de l'année dernière et on voyait le gars qui n'arrivait pas à savoir de quel côté il allait passer de la vallée. Mmh. Et il était de plus en plus bas et il ne voulait pas se résoudre à poser. Et donc il prenait des risques énormes. Est-ce que toi, tu as eu ce cas de figure?
Alors, jamais exactement ce cas de figure, mais oui... Pousser le bouchon un peu plus loin que ce qu'on devrait, ça arrive régulièrement sur ce genre de course parce qu'il y a l'émulation de la course, parce que les autres sont en l'air et parce qu'on sait que si on vole pas, on prend une demi-journée ou une journée dans la vue et qu'on est là pour jouer. Donc nous, les 5 premiers jours se sont très bien passés, on a eu des conditions très très correctes et même très bonnes. On faisait 200 km en vol par jour, ce qui est beaucoup. Et on a eu du vent très fort les 3 derniers jours. Et là, c'est devenu très turbulent et à la limite du supportable et du raisonnable, sur particulièrement le sixième jour, donc l'avant-dernier jour, où les trois premiers, c'est-à-dire Krigel Maurer, Maxime Pinault et moi, on s'est fait très peur. On était un peu échappé devant le reste des athlètes et on a pris plus devant que les autres. Et on s'est fait vraiment, vraiment peur plusieurs fois. Et donc. Comme tu dis, il y a des fois où on aurait disposé. D'ailleurs, je suis allé me poser un moment parce que je ne savais plus quoi faire. Mais il aurait peut-être fallu le faire avant.
Ouais. Mais comment tu optimises tes choix tactiques? Je suppose que tu travailles, tu t'entraînes énormément d'un point de vue technique, mais les choix tactiques, ils sont liés au moment.
Non, alors non, pas forcément. Ça fait partie des choses que j'explique un peu dans la conférence que je vais présenter avec le film. Mais les choix tactiques, on les travaille à l'avant, tout simplement parce que dans l'action... Ah, si on rajoute en plus l'émotion, le stress, tout ça, le cerveau, il n'est pas capable de tout gérer, de tout analyser. Et on est dans une espèce d'engluage cérébral et on prend rarement les bonnes décisions sous pression, sauf si on a travaillé avant. Et donc le but de la préparation, c'était aussi de bosser sur tous les itinéraires possibles, les cheminements possibles qui pouvaient exister. Donc j'ai beaucoup étudié les cartes des pilotes locaux, parce que maintenant on a des systèmes d'applications où tout le monde partage ses traces de vol, donc on peut voir tous les vols que les gens veulent bien partager. Et donc je m'étais fait des petits dessins sur des cartes, maintenant c'est numérique, c'est pas sur papier, mais... et tous ces petits dessins donc de route du ciel, je les avais sur mon téléphone et sur une application de cartes, et donc je savais en permanence quel choix j'avais de trucs qui se faisaient. Ça m'empêchait pas des fois de prendre un choix de trucs que j'avais pas repéré, mais au moins j'étais pas perdu, et ça m'aidait quand je devais prendre une décision rapide, je jetais un œil à ça, et je savais quelles options j'avais. Et donc ça fait partie du gros travail de préparation, en plus de la prépa physique, de monter un budget, de trouver une équipe et de voler.
Et comment connaître exactement ton potentiel et comment surtout ne pas le dépasser ?
Moi j'ai plutôt un problème inverse, c'est que je crois pas trop en mon potentiel, un peu un manque de confiance en moi. En tout cas en termes de résultats, je crois toujours que je vais pas y arriver, tu vois.
C'est un peu de l'humilité.
Ouais, l'humilité, du manque de confiance, depuis que je suis gamin, je traîne ça, mais justement, je le travaille grâce à la prépa mentale, et ça aussi, ça, j'en parle dans la présentation qui va suivre. Mais par contre, quand je suis dans l'action en termes de vent et de conditions limites acceptables, je me découvre des capacités que je connaissais pas, tout simplement parce que s'entraîner à voler dans des conditions pas bonnes, on n'arrive pas à le faire. Pour s'entraîner, sans but, sans... Kriegel, qui est le roi dans la matière, le dit lui-même, lui comme moi, on s'entraîne dans ces situations qu'en situation de compétition. Et à chaque fois que j'ai volé dans des conditions mauvaises, dangereuses, ventées, en compète, j'ai découvert qu'en fait, c'était possible de voler dans ces conditions-là, alors que la veille, je n'imaginais pas. Et au fur et à mesure, on apprend comme ça, on se dit, en fait, ça, je peux le faire, ça aussi. Et du coup, je découvre mes limites comme ça. Le danger, c'est qu'il ne faut pas les découvrir avec un accident, quoi.
Dans les films des années précédentes, dont je parlais tout à l'heure, il y a un des concurrents qui disait, la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse. Est-ce que toi, tu penses
alors,
ça également ?
Oui, c'est vrai. Alors, tous les athlètes, y compris les champions, sont vulnérables et ont des défauts ou des signes de faiblesse. Et le truc, c'est qu'ils savent les gérer et ils les connaissent et ils ont appris à ne pas exposer ces côtés-là. Ça ne veut pas dire qu'ils les cachent, ouais. mais ils savent mettre en valeur leurs points faibles. Moi, des points faibles, j'en ai plein. Je suis vulnérable sur plein de choses, et à commencer par mon mental et ma confiance en moi, ma confiance en mes capacités, on va dire. Donc, je suis en train de le travailler grâce à la prépa mentale avec Delphine Pille.
C'est un coach mental. Ouais.
C'est une coach mentale qui est aussi parapentiste et qui a monté une école de parapente spécialisée dans la prépa mentale. Ça aide beaucoup les pilotes. Et du coup, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle fait le même sport que moi.
Ouais.
Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a manqué en 2021. J'avais commencé à travailler, mais j'étais pas allé assez loin. Et en 2023, j'ai réussi à gommer beaucoup de ces défauts-là.
Alors, j'ai aussi noté de la part d'un concurrent qui disait que ce qui compte dans cette course, c'est le cœur. Il voulait dire le gros cœur, je suppose. Il n'y a pas que la technique,
non,
c'est ça qui se sous-entend.
Alors non, il y a le cœur, entre guillemets, la pompe.
Le cœur physiologique.
Ouais, parce que mine de rien, on enchaîne des journées très longues en termes d'activité. On fait, en général, les journées commencent à 5h du mat, elles finissent à 22h. Et on est actif pendant toutes ces heures-là, soit on marche, soit on court, soit on vole.
Ouais.
Et donc il faut une condition physique vraiment optimale. On peut faire jusqu'à 4-5 000 mètres de dénivelé par jour et puis recommencer le lendemain et pendant 10 jours. Et après le cœur, ouais, moi si je le faisais comme un athlète professionnel juste pour la performance, je pense que ça serait pas pareil. J'y mets beaucoup d'énergie dedans. On est une équipe 100% amateur. Et je sais que ma famille a fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse faire ça, parce que pendant un an je les ai vus, mais j'étais absent dans ma tête, on va dire.
Ouais.
Je m'entraînais dès que je pouvais, et en plus de mon travail et d'elle, voilà, c'était dur à découper tout ça. Et donc j'ai mis beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie, et ça s'est vu au sein de mon équipe. On était une super équipe avec une super ambiance, tous des potes.
Ouais.
Et ça compte, ouais.
Oui, parce qu'il faut préciser que tu es ingénieur EDF.
Je travaille EDF, je ne suis pas ingénieur, mais j'ai un DUT.
Voilà, donc tu bosses pas mal, quoi.
Oui, je bosse à plein de temps.
Tu as des horaires assez compliqués. Alors, un petit résumé de ton parcours. À 23 ans, tu démarrais le parapente. 2 ans plus tard, tu passais le BE. Maintenant, tu en es, il me semble.
2 ou 3 ans, je ne sais pas exactement.
Mais... Maintenant, tu en es à la compétition haut de gamme comme la X-Alpes. Tu as fait tes premiers 8000 au Pakistan avec Antoine Girard. Donc, c'est une trajectoire fulgurante. Est-ce que tu as envie de lever le pied un petit peu ? Est-ce que ça ne va pas trop vite ?
Alors non, je ne dirais pas fulgurante, justement. En gros, j'ai mis 15 ans, ça fait 15 ans que je vole, j'ai mis 15 ans à arriver à ce niveau-là. Et ça, ok, j'ai passé le BE assez vite et je me suis mis à la compétition pour le BE. C'est là que j'ai découvert que ça me plaisait et que ça a marché. Donc je suis rentré au Pôle France tout de suite après, et je suis resté 8 ans dans le Pôle France en compète de distance. Mais après, le reste, ça s'est fait plus lentement. Les marchés vols, c'est venu en 2017, le Pakistan en 2018, et donc là, j'ai volé à presque 8000 avec Antoine, en effet. Mais tu vois, ça fait pas 4 ans que je vole, quoi, ça fait 15 ans, et ouais, ce résultat, c'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup de passion. Et donc non, c'est pas, je trouve pas ça fulgurant si on compare par exemple à un Benoît Wouters qui a fait deuxième à la X-Alpes, et ça faisait 4 ans qu'il volait lui. C'est une j'ai toujours une progression lente mais régulière qui s'aplatit pas trop, et ça, j'espère que ça va continuer longtemps, hein. J'ai encore plein d'ambitions en tant que pilote, et pour l'instant je ralentis dans le sens où je suis forcé d'être présent à la maison avec ma vie familiale, mais j'ai encore des projets d'expé, notamment au Pakistan l'année prochaine, cet été pardon.
Avec Antoine Girard toujours?
Non, pas avec Antoine, avec d'autres copains, et des projets de compétition, pourquoi pas encore de marché vol, mais voilà, j'ai pas fait de cours là-dessus.
Alors on va faire une petite pause musicale avec la BO de ton film dont j'ai fait un petit montage.
Et en deuxième partie, on va parler justement du Pakistan, de ce que tu as fait là-bas, notamment le Spantik et puis les 8000.
Finalement, j'ai pas résisté à l'appel d'y retourner une deuxième fois pour voir s'il y avait un peu mieux à faire ou faire différemment.
Mais la X-Alpes, qu'est-ce que c'est ?
C'est la plus longue des courses de Hike and Fly. C'est une course qui est internationale.
Voilà, avec les meilleurs pilotes du monde.
Si on devait la comparer à d'autres sports populaires, on va dire que c'est l'équivalent du Tour de France en vélo de route, par exemple.
Oh putain, là j'ai arraché le truc.
Merde !
Du coup, maintenant, j'ose plus bourriner, quoi. 3.
Jour 2, là on arrive en Allemagne, alors il faut faire attention, il y a une règle en Allemagne de la X-Alpes, on n'a pas le droit de redécoller ailleurs que sur les sites officiels de décollage. En gros, il faut pas se poser.
Thermique dégueu avec Tommy là. Bon, il monte alors. Il déclenche vers la face est sous le vent de la brise. Mort là. Du coup, c'est pas cool, mais ça va mieux là. Si j'ai réussi à allumer la caméra, c'est que ça s'est calmé. Allez, ça va le faire, il faut absolument qu'on passe le col là pour basculer dans notre vallée, sinon c'est la merde. Il est 19h, on est à 2007, 2008, ça monte encore. C'est bien parce que le col est à 2008 ou pas loin. Donc il nous faut au moins 100 mètres encore, on est presque au bord de l'eau. Allez, allez, ça passe. Ça va passer, allez, il y a 30 mètres entre le nuage et le col. C'est les derniers épreuves. Hein.
Et on se rapproche de la balise et on finit à 8h30, à 10 km de la balise. Les premiers avaient juste claqué la balise et redescendu en glide, donc ils avaient 10 bornes d'avance. On marche un petit peu de nuit là pour arriver au niveau du lac qui est juste sous la balise du Pitzbühne. Donc il nous restait le lendemain 400 mètres à faire pour claquer la balise à pied et de rester en drapeau derrière, à 10 km derrière. Ouais, jour 3, on scrute un peu ce que font les premiers qui sont sur des faces sud-est à Davos. Et après, ça commence quand même à charger, il y avait quand même des risques de développement et de pluie annoncés sur Dicentis.
Allez, 2008 sur la crête de Davos, ça y est, on a raccroché. C'est parti maintenant, espérons que ça se passe pas trop vite.
Il faut savoir que c'est interdit de voler dans la pluie, donc ça veut dire que des pilotes ont dû poser pour éviter de voler sous la pluie. Et ceux qui, du coup, arrivent à contourner ces zones, bah, ça leur permet de rester en l'air et de gagner du temps de manière considérable.
À ce moment-là, on rattrape Pal, qui était dans le groupe de tête aussi, puis qui s'était posé. Et on rattrape Kriegel qui a fait un point bas pendant longtemps. Il n'y a que Max qui reste devant. Donc à ce moment-là, avec Patrick, on arrive à se retrouver deuxième. Je vois Patrick qui sort sur une crête en nord. Là, il prend une face nord en Dermatt et en fait, il sort. Donc je me dis, c'est bon, il y a du nord.
Et en fait, cette face, elle était sous le vent du fun de sud. Et moi, je me fais vraiment un peu tordre en deux.
Et voilà le col, bienvenue en France. Maintenant, il faut monter, copain. Voilà, j'ai passé sa moelle. Devant, c'est sa lanche. Et là, c'est les 6, je crois. Il y a un petit cube perché là, parce que je suis à 2006, il y a plus de 3000. Vous pouvez le faire, ça c'est cool.
Il a très bien tiré son épingle du jeu quand il a fallu aller contourner le Mont Blanc. Il a recollé avec la tête de course. Il faut savoir que ce déplacement-là, il a eu une superbe conséquence pour le lendemain, parce que du coup, Damien a pu décoller très tôt du col.
Je suis posé, 20h57. Là, je crois que c'est bon. Là.
Après avoir fait ce vol incroyable, ça y est, là, je me détends. Il y a une belle explosion de joueurs latéraux, on se félicite. On sait qu'en fait, techniquement, Maxime derrière et Patrick ne peuvent pas revenir sur nous. Parce que d'avoir réussi ce move en posant 3 minutes avant leur limite et en ayant été capable de descendre en vol depuis ce col, ça nous a fait gagner 20 km sur les poursuivants. Et eux, ils seront obligés de descendre à pied. Donc maintenant, il me reste encore 60 km à faire de nuit avec le Night Pass.
Je fais 20 bornes en trottinant parce que je me sens bien. Il y a l'équipe de Laurie qui vient m'aider. J'ai jamais été seul. Il y a Noé qui a beaucoup marché avec moi. Il y a Raph, il y a Badr. Et tout le plat se passe très bien. Quand je trottine, je suis à 9-10 km/h. Quand je marche, je suis à 6.
On peut avoir de très bonnes conditions, mais si derrière, il n'y a pas le pilote, on n'arrive pas là où est arrivé Damien. Qui plus est, avec un mental énorme. Mais il y a eu des conditions très, très dures. Hein, parce que quand on récupère Damien, très fatigué mentalement, là, c'était costaud et la perf qu'il a fait, elle est remarquable, boire en main.
Bonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Damien Lacaze. On va parler du Pakistan. Donc tu y as été en 2018, tu le disais tout à l'heure, avec Antoine Girard. Je crois que vous avez fait 1500 km en autonomie.
On a fait 1500 km de vol bivouac, oui. Alors en autonomie, c'est-à-dire on est forcément sur ces 1500 km, ça a duré plus d'un mois, redescendu en vallée pour se ravitailler. Mais il n'y avait personne qui nous accompagnait, on n'était que tous les deux. Et on a fait tout ça sans, à partir du moment où on est arrivé à Skardu, sans utiliser de véhicule ou quoi que ce soit. On a marché et on a volé. Et c'est tout.
Extraordinaire. Je crois qu'il y a eu un film là-dessus qui s'appelle Lost in Karakoram.
Mm-hmm, c'est ça.
En fait, Antoine Girard, on le voit plusieurs fois, des photos au-dessus de 8000. Toi-même, tu as dépassé les 8000 ?
Alors, cette année, on n'a pas dépassé 8000. Alors, il faut savoir qu'en 2018, quand on y est allé, il n'y avait qu'un seul homme qui avait volé au-dessus de 8000. C'était lui, en 2016, où il avait réussi à faire 8150, je crois, quelque chose comme ça, au-dessus du Broad Peak. Et donc, forcément, on y allait aussi un peu pour ça. Et on a réussi à faire, sans le savoir, en plus, parce que nos baromètres avaient un peu dérivé avec l'altitude. On l'a su après en épluchant les traces GPS, on a fait 7960, donc il nous manquait 40 mètres pour refaire 8000.
C'est rageant.
Et alors que nos baromètres indiquaient 7007, parce qu'ils avaient, et celui d'Antoine, pas loin, ils avaient dérivé avec l'altitude, mais voilà, nos deux GPS ont indiqué ça, donc on était un peu vert de ne pas avoir insisté un peu plus, parce que ça montait encore en plus. Mais c'est pas très grave, c'était pas le but du voyage, enfin le but premier, c'était... C'était une des options, on va dire, un des objectifs, mais il y en avait plein d'autres, notamment faire un grand vol bivouac sur des lignes encore jamais volées, essayer de monter à 7000 en alpiniste en faisant toute l'approche en parapente, et puis revoler encore sur le Broad Peak, le K2 et le glacier du Bel Toro, et tout ça, ça a été génial.
Et donc le dada de Antoine Girard, qui est le paralpinisme, monter en escalade et redescendre en parapente, ça tu l'as fait avec lui, je crois que vous avez fait le Spanty qui a 7000...
Voilà, on a un peu initié le concept sur une idée, c'était lui qui a eu l'idée, donc, mais ça, on l'avait encore jamais fait. Donc on appelle ça du paralpinisme, maintenant on appelle ça plus des combos, parce qu'on combine parapente et alpinisme.
Ouais.
Et donc le but c'est de voler avec des parapentes de crosse, donc performants, avec tout le matériel d'alpinisme et de se poser au pied de la zone technique qui nous intéresse, donc en zappant toute la partie approche qui est très très longue en Himalaya.
Ouais,
et
ouais.
Ça permet d'éviter tout ce qui est porteur, camp de base et tout ça, donc d'éviter des milliers d'euros, beaucoup de pollution et surtout beaucoup de temps.
Et
beaucoup d'efforts. Et ça permet de faire des expéditions avec des budgets pas ridicules, mais bien limités, parce qu'il suffit de s'acclimater autour de, par exemple, de Hunza, là où on était, dans une petite ville. On marche, on vole tous les jours pour se mettre la caisse et s'acclimater à l'altitude. Et quand on a le bon créneau, on décolle, on fait un petit cross en parapente, on se pose là où on veut grimper, on grimpe, on redescend et on redécolle et on rentre. Bon, ça implique d'avoir un bon créneau météo et de ne pas se faire avoir par le mauvais temps, comme c'est ce qui nous est arrivé, nous. En 2018, mais on était un peu light en organisation, un peu à l'arrache, notamment aussi au niveau de l'acclimatation, où Antoine a commencé à faire un œdème cérébral et voilà, il fallait vraiment qu'on décolle pour descendre, sinon ça aurait pu mal se passer. Mais voilà, c'est vraiment un concept à creuser et c'est pour ça aussi que je retourne au Pakistan cet été, pour pousser un peu plus ce concept de combo sur des ascensions un peu plus techniques d'escalade et avec un peu plus d'entraînement.
Et tu prévois de faire des combos sur des 7000 comme tu avais fait avec Antoine?
Ouais, on n'a pas encore défini tous les sommets, mais si on arrive à avoir les permis qu'il faut, il y aura peut-être une belle surprise et si ça se fait sur un sommet qui n'a encore jamais été gravi. Mais ça sera pas 8000.
On se pose des questions de béotiens. Quand on reste à 5000 mètres tout le temps pour justement ne pas redescendre et rester acclimaté, est-ce que c'est pas trop éprouvant?
On ne reste pas à 5000 tout le temps. Hein. Quand on bivouaquait en vol bivouac, on bivouaquait entre 4000 et 5000. Et on a bivouaqué les deux derniers jours à 6000 pour finir l'acclimatation.
Ouais.
Donc là, on ne dort pas très bien en général, parce que ce n'est pas une altitude à laquelle on peut se sentir bien, 6000. Donc on volait par contre tous les jours entre 5000 et 7000, et même jusqu'à 8000 les très très bonnes journées. Et on se posait aux alentours des 4000-4500 mètres dans ces contrées-là. Là, en Himalaya, c'est la montagne à vaches. Là-bas, il y a des vaches d'ailleurs à 4000 mètres, il n'y a pas de neige. Et il y a de l'eau, donc ça faisait des bivouacs comme chez nous en 2000 mètres.
Est-ce que tu as, comme Antoine qu'on voit dans un film, qui fait un mauvais atterro et qui se vrille la cheville, qui la bousille, est-ce que ça t'est arrivé de faire des choses comme ça?
Non. Alors,
dans la précipitation?
Non, je me suis blessé une fois gravement au dos sur une erreur bête en mini-voile, bref. Mais en dehors de ça, je ne me suis jamais fait mal. Et j'espère que ça me fait. C'est déjà bien suffisant. Puis ça aurait pu être très grave au niveau du dos. Mais je ne me suis jamais fait mal en me posant ou en faisant des atterrissages violents. Bien que ça m'est arrivé de faire des atterrissages un peu violents, mais jamais sérieux.
Et tu n'as pas l'appréhension en étant là-bas à perpète les oies d'être blessé? Aucun hélico ne viendra vous chercher?
Et alors, ça, c'est le concept d'engagement que tu évoques. Et j'en parle aussi ce soir. C'est sûr que. Quand on est dans ces pays-là et dans ces montagnes-là, on sait qu'on ne peut pas trop compter sur des secours comme dans le massif du Mont Blanc ou des écrins. Il n'y a pas un hélico qui va venir nous chercher. Et donc, on peut compter que sur soi et sur ses capacités pour être en sécurité. Et ça, c'est assez grisant. C'est aussi ça qu'on vient chercher. Ça ne veut pas dire qu'on est des trompe-la-mort, mais ça veut dire qu'on a aussi besoin de sentir qu'on est les seuls responsables de notre réussite et de notre retour ou non. On vient chercher ça là-bas parce que chez nous, les sociétés actuelles tolèrent plus ou n'acceptent plus la prise de risque. Les gens ont du mal à comprendre ce concept-là parce qu'ils disent vous êtes fous, vous êtes tarés. Mais en fait, on n'est pas fous du tout, c'est réfléchi, c'est travaillé, on s'entraîne pour ça. Et ça procure une telle sensation de sentir que voilà, on est capable de faire ça en sécurité parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait en place pour avoir ces compétences-là. Que c'est ça qu'on vient chercher. Voilà. Et donc, par contre, quand on le sait et qu'on y est dans ces montagnes-là, on prend des marges supérieures par rapport à ce qu'on fait dans les Alpes, ouais. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, justement.
Antoine Girard disait qu'il volait toujours avec une aile bien en dessous de son niveau, de manière à avoir moins de problèmes, moins de fermetures,
ouais,
moins alors, de gestion de fermeture.
Ça, on y était quand même avec des voiles END, donc ça reste des voiles de compétition. Mais c'est pas des voiles de course ultime. Pour vous donner c'est les mêmes voiles que les voiles X-Alp. Donc c'est des voiles très très performantes. Donc ils sont en catégorie D, donc c'est la plus haute catégorie des voiles homologuées. Après au-dessus il y a les voiles non homologuées qui sont que pour la course de distance sans marcher.
Ouais.
Mais qui restent assez safe dans leur réaction parce qu'à la X-Alp aussi les constructeurs savent qu'on pousse un peu tous les curseurs au maximum et donc il faut des voiles qui soient gentilles.
Voilà. Comment ça se passe quand vous êtes deux personnes assez performantes, comme Antoine et toi? Est-ce que vous vous entraidez quand vous avez des coups de mou? Quelle est la collaboration?
Ouais, alors
quel est le leading entre vous?
Il n'y a pas vraiment de leading parce que, enfin, sur l'histoire du Pakistan, j'ai quand même beaucoup laissé l'avantage, on va dire, ou la décision à Antoine parce qu'il connaissait beaucoup mieux que moi. Moi,
ouais, c'est la
première fois que j'allais dans ce pays. Lui était allé 5 fois, donc 4 fois pour grimper en montagne et une fois pour voler. Donc il connaissait vraiment le pays, il y a des endroits qu'il avait déjà volés. Quand je connaissais pas et que j'étais perdu, c'est quand même lui qui prenait des décisions. Et après, on peut tous avoir des coups de mou. Ça, heureusement, ça arrivait jamais le même jour à nous deux en même temps. Et donc là, on se passait le lead chacun, on se parlait. Et puis de toute façon, on s'entraidait en l'air. Hein, quand il y en a un qui trouvait pas un thermique, ben, l'autre il attendait parce qu'on n'avait pas le droit de se séparer tout simplement. Le bivouac est réparti dans les deux sacs. On n'avait que des petites radios, des talkie-walkie, mais on n'avait rien d'autre pour communiquer. Donc si on se perdait de vue, ça marchait plus. Et les téléphones là où on était, ça marchait pas. Donc il fallait pas qu'on se perde de vue.
Flying on the Edge, qui est le titre de ton film, c'est sur le côté en anglais. Est-ce que c'est sur le fil du rasoir?
On n'avait pas d'idée pour le film et c'est une idée de Reynald, qui était le météoman, qui est suisse, mon météoman, et qui a eu cette idée là parce qu'il a eu un peu peur quand il nous a fait les prévisions météo les 3 derniers jours où on a eu beaucoup de vent, et du coup il m'a dit ce titre là ça résume bien un peu la course, vous êtes toujours sur la limite en fait, sur la crête à cheval
sur le fil,
voilà. Et donc on a gardé ce nom là parce qu'on n'a rien trouvé de mieux.
On laisse ton site
Damien-Lacaze.
Ah oui, Damien-Lacaze.fr. On retrouve évidemment les récits, tes projets, les vidéos de tes vols. Merci Damien d'avoir suivi ton leitmotiv. J'avais lu que ton leitmotiv c'était élève-toi et marche.
Ah bon? Je sais, alors je suis. C'est pas moi qui l'ai écrit. Moi c'est plutôt profite de la vie tant que tu peux, ou quelque chose comme ça. Ou n'oublie pas de jouer. Mais...
très bon leitmotiv aussi. Merci à toi.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.